Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc c'est Amnesty International Évreux pour sa première émission du mois d'avril, consacrée bien sûr à l'information, la promotion et la défense des droits humains, puisque c'est notre raison d'être. Pour partager le micro avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et nous faisons un petit salut à Jean-Luc qui, comme la dernière fois, nous assure la technique. Il vous fait un salut de la main. C'est pas radiophonique, un salut de la main, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, pour commencer l'émission ce soir, j'ai envie de vous dire, c'est pas un proverbe, mais enfin, c'est une chose qu'on entend, surtout quand on est enfant et qu'on a fait des bêtises et qu'on a un peu travesti la vérité. Généralement, on entend les parents qui disent « c'est pas beau de mentir ». Moi, je sais que les miens, ils me disaient ça des fois, « c'est pas beau de mentir ». Eh bien, on peut dire ça auprès des autorités officielles françaises, « c'est pas beau de mentir ». Parce que, vous en avez déjà parlé de nombreuses fois pendant nos émissions, Amnesty International dénonce depuis plusieurs mois maintenant les ventes d'armes qui continuent à être faites par la France.
Et d'autres pays aussi.
Et d'autres pays, mais nous on s'intéresse
à la France.
Forcément, puisqu'on y est. Et les ventes d'armes qui sont faites à l'Arabie Saoudite et aussi à l'Égypte, mais ce soir c'est plus spécifiquement à l'Arabie Saoudite. Puisque Amnesty dénonce depuis des mois en disant que ces armes qui sont vendues à l'Arabie Saoudite servent pour l'armée d'Arabie Saoudite et de la coalition contre le Yémen pour faire la répression vis-à-vis de la population civile, chose qui est parfaitement interdite dans les normes du traité sur le commerce des armes qui a été signé par la France.
On ne doit pas vendre des armes quand il risque de se retrouver dans un conflit.
Exactement. Et nous, on le dénonce depuis des mois. Alors, les autorités françaises nous ont répondu que non, que la France, bien sûr, vendait des armes à l'Arabie Saoudite, mais qu'ils avaient toutes les informations et toutes les garanties comme quoi, non, ces armes-là ne servaient pas à tirer sur les civils, en gros. Eh bien, on a la preuve maintenant que tout ce qu'on avait soupçonné depuis des mois est vrai, puisqu'il y a eu, c'est Radio France qui l'a confirmé, entre autres France Culture, il y a eu des fuites, des documents qui ont fuité du ministère des Armées, et qui prouvent que oui, les armes effectivement vendues par la France servent à la répression au Yémen, à la répression des civils, et que Madame la ministre des Armées est au courant, ainsi que Monsieur le Président de la République, et d'autres personnes sans doute, mais au moins eux sont au courant depuis le mois de septembre 2018. Or, à la radio au mois de janvier dernier, sur France Inter, c'était pas sur Principe Actif, mais sur France Inter, Madame la ministre a encore redit que non, elle n'avait aucune information qui permettait de détailler les craintes formulées par les ONG, dont Amnesty International. Et donc, je vous ai ramené, on va l'entendre effectivement dans quelques secondes, le petit son qui a été fait sur France Culture et qui montre bien effectivement cette preuve. Donc, on va dire encore une fois, eh bien, c'est pas beau de mentir.
Mais c'est mentir par omission, elle a oublié.
Oh, tu crois ? Ouais.
Officiellement, l'armement français n'est utilisé que de manière défensive au Yémen. Or, ce que révèle une note confidentielle défense de la Direction du renseignement militaire, c'est que des armes françaises sont bien utilisées sur terre, sur mer et dans les airs par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Sur le champ de bataille, il y a des chars Leclerc avec des obus français, des Mirage 2000 participent aussi au bombardement, des avions équipés d'un système de guidage laser, le pod Damoclès, là encore vendu par la France. Or, 30% des raids aériens atteignent des objectifs civils. Et puis, il y a des canons baptisés César, des canons censés ouvrir la voie pour les forces de la coalition qui progressent en territoire yéménite. Une carte du renseignement militaire intitulée « Population sous la menace des bombes » montre que les civils sont à portée de tir des canons français. Il y a ensuite le soutien, l'aide logistique à la guerre au Yémen, hélicoptères de combat, transport de troupes ou avions ravitailleurs indispensables aux frappes aériennes. Ce que montre enfin cette note confidentielle, c'est que des bateaux de fabrication française participent au blocus maritime, perturbant ainsi l'acheminement de la nourriture ou des médicaments sur place.
Principe actif, c'est actif par principe.
Donc voilà, donc on a la preuve et donc on continuera à dire effectivement que c'est pas la peine de nous raconter des carabistouilles, c'est ça qu'on dit. Donc voilà, et pour bon, on va continuer à parler au niveau des autorités puisqu'on va vous parler aussi de ce qui va se passer dans quelques semaines, c'est-à-dire les élections européennes. Mais je pense qu'avant, il y avait Edith qui voulait vous dire quelque chose qui avait trait aussi à la protection des lanceurs d'alerte, des gens qui dénoncent justement les crimes.
Voilà, ben moi je vais peut-être penser en parler après Didier, mais avant c'est pas mal aussi, c'est une bonne place, donc j'y vais. Et j'ai vu aujourd'hui, juste en préparant l'émission, que le Parlement européen avait adopté la directive par rapport à la protection des lanceurs d'alerte. Donc ça c'est quand même important et c'est quelque chose que l'on surveille au niveau Amnesty. Donc ce texte prévoit une protection particulièrement renforcée pour ceux qui dénoncent les agissements de leurs employeurs, que cela soit au sein de leur structure, soit auprès des autorités compétentes ou même directement au grand public via les médias. Ces dénonciateurs ne pourront plus faire objet de représailles en interne de la part de leurs entreprises et devraient ainsi échapper aux poursuites judiciaires. Concrètement, avec ces nouvelles règles de procès, le procès LuxLeaks n'aurait tout simplement pas eu lieu. Et, par exemple, Antoine Delcourt n'aurait pas été jugé. Ce sont des affaires qui ont eu lieu dernièrement. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle de l'Europe. Oui. Comme lancement, ça te va, Didier ?
Oui, oui, ça me va, tout à fait. Et donc, bah oui, ça fait le lien avec l'actualité, puisque le 26 mai 2019, on va voter pour les élections européennes. Et souvent, les gens se demandent à quoi ça sert, tout ça. Et donc, Amnesty France a fait publier un petit topo sur le site, là, très récemment, il y a 2 ou 3 jours, qui fait le point justement sur ce que, en termes de défense des droits humains, ce que peut faire un député européen. Donc ça ne peut que nous inciter effectivement à prendre nos responsabilités en tant que citoyens. Alors le 26 mai 2019, les citoyennes et les citoyens français sont appelés à désigner leurs représentants au Parlement européen. Mais que peut donc faire un député européen pour défendre nos droits humains ? Petit tour d'horizon. L'Union européenne doit relever bien des défis. Concilier protection des citoyens et respect des libertés, lutter contre la pauvreté et les inégalités croissantes, assurer l'égalité entre les genres, relancer la solidarité entre les pays européens pour traiter la question des migrations, agir pour le climat. Le traité européen affirme que les États de l'Union sont rassemblés autour d'un socle de valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. L'Union européenne a certes adopté certaines législations et pratiques en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. Mais force est de constater que certains volets de sa politique ne sont pas conformes aux obligations internationales relatives à ces mêmes droits. Les valeurs de l'Union européenne sont régulièrement remises en cause par des personnalités politiques, y compris des chefs d'État ou de gouvernement de pays membres. Sur le sol de l'Union européenne, des groupes de personnes sont stigmatisés et discriminés en raison de leur origine, leur identité de genre, leur orientation sexuelle ou leurs opinions. Nous voulons les institutions européennes qui respectent les principes fondateurs de l'Union. Le Parlement européen, seule institution de l'Union européenne élue au suffrage universel direct, est à cet égard un acteur clé du dispositif institutionnel. Pour cela aussi, les députés européens ont un rôle à jouer. Qu'il s'agisse de l'indépendance de la justice, de la liberté des médias, des libertés d'expression, d'association ou de manifestation, ces valeurs sont au cœur du projet européen. Ces dernières années, l'état de droit a été remis en question au sein même de l'Union. La situation est particulièrement préoccupante, notamment en Hongrie et en Pologne.
Et alors, que peuvent faire les États, les députés européens ? Suivre de près la situation des droits humains dans les pays membres de l'UE et dénoncer les violations des droits humains qui ont lieu. Se mobiliser en particulier lorsque ces violations représentent une menace claire aux principes fondateurs de l'Union européenne, par le biais des débats, résolutions et autres actions parlementaires. Défendre un renforcement des mécanismes existants, procédures en manquement, cadre de l'état de droit, un article, etc. Travailler activement avec la société civile et les autres experts en soutenant leurs efforts pour les droits humains en Europe. Voilà le travail d'un député.
Alors, depuis l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme en décembre 1998, au moins 3500 défenseurs ont été assassinés et de nombreux autres ont été victimes de disparitions forcées dans le monde. En Europe, les défenseurs des droits humains sont confrontés à des attaques d'une fréquence et d'une ampleur inédites. Et que peuvent faire les députés européens ?
Eh bien, ils peuvent évoquer activement des cas des défenseurs et dénoncer les exactions dont ils sont victimes lors des débats en session plénière, par des résolutions urgentes et dans la sphère publique. Initier des actions au niveau du Parlement européen, de l'Union européenne et des États membres afin d'obtenir la libération des défenseurs des droits humains détenus partout dans le monde. Appeler l'Union européenne à faire de la situation des défenseurs des droits humains et des droits humains eux-mêmes un point systématiquement évoqué dans toutes les relations avec les pays tiers, jusqu'au plus haut niveau, y compris dans le cadre des relations commerciales, économiques et liées au développement. Inviter les défenseurs des droits humains à présenter au Parlement européen la situation des droits humains dans leur pays, qu'il s'agisse ou non d'un pays de l'Union européenne. Prendre contact avec des parlementaires dans des pays tiers afin d'évoquer des cas des défenseurs des droits humains et de faire en sorte qu'ils expriment publiquement des préoccupations par rapport aux atteintes commises à l'encontre des défenseurs des droits humains. On pourrait peut-être inviter l'Arabie Saoudite, non ?
Oui, tout à fait. Mal. Oui, mais elle ne fait pas partie de l'Europe.
Ah ben oui, mais les pays tiers.
Les pays tiers, oui, c'est ça. Alors, ne pas sacrifier non plus les droits humains en mesure d'austérité. Suite à la crise financière de 2008, plusieurs pays de l'Union européenne ont introduit des politiques d'austérité consistant essentiellement à opérer des coupes dans les dépenses publiques afin de réduire le déficit de l'État. Des millions d'Européens ont payé le prix fort de ces politiques. Plusieurs secteurs, y compris le secteur social, ont réduit les dépenses, ce qui a eu des répercussions sur les budgets alloués à la santé, à l'éducation, au logement, au système de retraite et à d'autres services sociaux. Ces coupes ont abouti à une restructuration de ces services publics indispensables et à des restrictions d'accès à ceux-ci. Ces violations des droits économiques, sociaux et culturels ont touché des groupes défavorisés et marginalisés qui subissaient déjà de plein fouet les répercussions de la crise financière. Plus de 10 ans après le début de cette crise, les mesures d'austérité continuent à avoir des conséquences graves sur les conditions de vie et le bien-être de millions de personnes dans de nombreux pays de l'Union européenne. Les institutions de l'Union européenne ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration et l'application de ces mesures d'austérité dans plusieurs pays membres. Dans certains cas, par exemple, les institutions ont collaboré avec d'autres institutions financières afin d'offrir une aide financière aux pays moyennant la mise en œuvre de politiques d'assainissement budgétaire et d'ajustement économique. Le Parlement européen, qui continue d'être un espace où les décisions relatives aux politiques budgétaires et monétaires sont examinées et adoptées, a un rôle important à jouer dans l'approche de l'Union en matière d'austérité. Et que peuvent faire les députés européens ?
Eh bien, ils peuvent demander activement des comptes aux institutions de l'Union européenne afin de s'assurer que les recommandations et les objectifs en termes d'assainissement budgétaire ne se fassent pas au détriment du respect des droits économiques et sociaux. Ils peuvent aussi demander à ce que des études d'impact sur les droits humains soient menées de manière régulière et périodique pour toutes les politiques économiques, ainsi que tous les programmes de réformes économiques et d'aide financière soutenus par les institutions de l'Union européenne. Une demande portée par l'expert indépendant des Nations unies chargé d'examiner les effets de la dette extérieure.
Alors, parmi la défense des droits humains, il faut aussi assurer l'égalité des genres. Dans plusieurs pays de l'Union européenne, certains groupes politiques ou religieux ont de plus en plus aisément recours à des discours dangereux faisant appel aux traditions et aux valeurs de la famille afin de saper les droits des femmes et des personnes LGBT. Ils expriment leur opposition et diffusent de fausses idées quant aux valeurs et aux politiques découlant de ce qu'ils appellent l'idéologie du genre, dans lesquelles ils englobent le mariage pour tous, la reconnaissance du genre à l'état civil pour les personnes transgenres, ainsi que les droits sexuels et reproductifs et la législation sur les violences à l'égard des femmes. Des évolutions au niveau de l'Union européenne sont intervenues concernant le mariage entre personnes de même sexe au cours de ces dernières années. Pourtant, les personnes LGBT continuent d'être victimes de violences et de discriminations. De même, les violences à l'égard des femmes, y compris les violences sexuelles, sont trop souvent répandues à travers l'Union. L'accès aux droits sexuels et reproductifs est très inégal selon les pays dans l'Union européenne. En mai 2018, les citoyens irlandais ont renversé par référendum l'interdiction de l'avortement inscrite dans la Constitution, remportant une immense victoire pour les droits des femmes. Et donc, dans ce domaine, que peuvent faire les députés européens ?
Continuer à recommander des législations, des politiques et des pratiques qui garantissent l'égalité des genres. Lutter contre la discrimination structurelle au motif du genre, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre dans les États membres, y compris en adoptant la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes. Développer avec la Commission européenne et les États membres une stratégie exhaustive pour l'Union européenne, afin de prévenir et de combattre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des jeunes filles et de répondre à toutes les questions structurelles alimentant ces violences. Poursuivre leur soutien aux efforts visant à garantir l'accès aux droits sexuels et reproductifs, y compris l'accès à l'avortement de manière sûre et légale dans tous les États membres. Et tu parlais tout à l'heure de l'Irlande, on va parler aussi de la Pologne, où c'est un pays où il faut surveiller.
Oui, tout à fait. Alors, en termes de politique migratoire, pour faire une politique migratoire respectueuse des droits humains, les actes de la politique migratoire de l'Union se sont consolidés depuis la crise des politiques d'accueil de 2015 autour de l'externalisation, du renforcement des frontières extérieures et de l'abandon de l'harmonisation des conditions d'accueil en Europe, avec notamment le régime d'accueil européen commun. Le Parlement européen a adopté à plusieurs reprises des positions en faveur de plus de solidarité entre les États membres ou le principe que le sauvetage des vies doit être une priorité absolue. Pourtant, ces positions n'ont pas été au cœur des préoccupations du Conseil européen et de la Commission européenne dans les orientations prises dernièrement. L'Union et ses États membres développent des coopérations avec des pays d'origine ou de transit des réfugiés et migrants visant à leur transférer la responsabilité du contrôle des migrations. D'une façon générale, la coopération de l'Union européenne avec les États tiers dans le domaine des migrations n'est pas soumise à une évaluation de son impact sur les droits humains. De même, cette coopération échappe quasiment à toute surveillance démocratique du Parlement, lequel tend à être mis de côté alors même que son rôle sur la question des accords internationaux a été renforcé par l'article 218 du traité. Et que peuvent faire les députés ?
Mettre en place des mécanismes transparents de suivi et de contrôle des politiques d'externalisation et rendre compte publiquement de leur impact sur les droits humains. S'assurer que la coopération avec les autorités libyennes en matière migratoire soit subordonnée à la mise en place de mesures concrètes pour mettre fin notamment à la détention des migrants et réfugiés. Condamner toute politique et mesure qui empêche ou criminalise les actes de solidarité ou d'assistance humanitaire aux personnes migrantes et réfugiées et œuvrer pour que la législation européenne pertinente soit révisée en ce sens.
Et enfin, dernier point, lutter contre le changement climatique pour et par les droits humains. Le changement climatique a des incidences sur les droits humains. Le droit à la vie, à la santé, au logement, à l'accès à l'eau et aux installations sanitaires, entre autres. Et il frappe de manière disproportionnée les personnes les plus marginalisées ou les plus exposées aux discriminations. L'Union européenne fait partie des régions mondiales qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et la responsabilité historique des États européens par rapport au changement climatique est plus grande que celle des pays en développement au vu de leur part proportionnellement plus élevée d'émissions au fil du temps. Et sur ce plan, enfin, que peuvent faire les députés européens ?
Alors, il peut pousser l'Union européenne à fixer des objectifs plus stricts de l'ordre de 65% de réduction des émissions afin d'être en phase avec l'objectif de limiter le niveau de réchauffement climatique à l'échelle planétaire de 1,5. Faire pression pour que la stratégie la plus ambitieuse soit adoptée, une stratégie à même de permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible d'ici 2040 ans. Adopter et superviser la mise en œuvre des mesures qui assureront une véritable transition vers la neutralité carbone. Il peut s'agir par exemple de faire en sorte que le budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027 devienne un levier permettant d'atteindre des objectifs en matière de climat. S'assurer que les politiques et les stratégies relatives au climat ne s'appuie pas sur des solutions présentant des risques importants de répercussions graves sur les droits humains. Par exemple, cela concerne certains types de techniques d'élimination du carbone nécessitant d'énormes surfaces de terrain et de quantités d'eau qui, selon toute probabilité, impliqueraient des expulsions forcées, des pénuries de nourriture et d'eau, d'augmentation et de prix.
Voilà, donc c'était des petits rappels, mais ce n'est pas inutile, pour vous indiquer que, ben oui, votez pour qui vous voulez, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire campagne pour tel ou tel candidat, mais votez pour les élections européennes. C'est un petit résumé de ce que peut faire un député européen, et bien c'est important. Voilà. Mina, je crois qu'elle avait quelque chose à nous dire, et ce n'était pas en Europe, par contre. Et,
oui, avant de parler...
Vas-y, mets tes lunettes, Mina.
Avant de parler.
Mina est prête.
Qu'est-ce qui se passe demain soir à Évreux, au Cube, au club?
Oui, il y a effectivement...
Parler de climat.
Oui, il y a une émission de radio en direct de 20h.
Une radio qu'on connaît?
Oui, Radio Principe Actif fait Principe Actif pas en live. C'est demain en direct au Cube, de 20h à 22h, donc en direct aussi sur l'antenne. Vous pouvez venir nous voir la radio, moi j'y serai, et puis aussi nous écouter. Et c'est consacré justement au changement climatique. Très juste.
Alors, à propos, Mina.
Eh oui. Je vais vous parler depuis quelques mois de la campagne pour les défenseurs des droits humains menée par Amnesty. Et j'ai une bonne nouvelle. Le 28 mars 2019, après 10 mois de détention arbitraire, les défenseurs des droits humains saoudiennes Iman Al-Nafjan, Aziza Al-Youssef et Rukaya Al-Mareb ont été libérés provisoirement. Ceci est le résultat d'une campagne mondiale en leur faveur, à laquelle Amnesty International a pris part. Leur libération, certes provisoire, montre bien que même les États les plus autoritaires peuvent plier lorsqu'ils sont montrés du doigt de toutes parts pour leurs pratiques scandaleuses. Cependant, le combat continue. La pression sur les autorités saoudiennes ne doit pas faiblir. Tant que toutes les femmes défenseurs saoudiennes ne seront pas libérées et que des charges pèseront toujours sur elles. Parmi les défenseurs toujours en prison se trouve Loujain Al-Atloul, l'une des figures de la campagne pour permettre aux femmes de conduire, arrêtée en mai 2018 avec Iman Al-Nafjan et Aziza Al-Youssef. Aux côtés de plusieurs autres militantes, elles ont été accusées d'avoir pris contact avec des organisations internationales, des médias étrangers et d'autres militants. Certaines ont également été accusées de promouvoir les droits des femmes et de réclamer la fin du système de tutelle masculine. En juillet 2018, ce sont Samar Badawi, la sœur du blogueur Raif Badawi, et Nassima Al-Sada qui ont été emprisonnées. Nassima Al-Sada a été placée à l'isolement et nous ignorons toujours les charges qui pèsent contre elle. Donc continuez le combat, on vous tiendra au courant. Et
il y a une pétition sur le site.
Pour continuer justement à défendre...
Et le site c'est amnesty.fr, on ne peut que vous recommander à y aller effectivement, il y a une pétition pour les soutenir.
Justement, je vous parlerai d'une action urgente juste après
la pause
musicale, savoir comment continuer à combattre.
Musique.
Donc de retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est toujours Amnesty International, c'était Bruce Springsteen, on vous avait amené le disque, pour ceux qui ont écouté la dernière émission, on vous avait amené le disque, mais il passait pas du tout le disque, il avait sauté. Donc quand même par respect pour Bruce Springsteen, qui est un grand défenseur des droits humains et d'Amnesty, on vous a ramené le morceau, mais cette fois en bonne écoute. Voilà.
Et quand tu sais qu'un battement d'aile de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé et dans la vraie vie prouvé par tous, l'effet papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses.
Principe actif.
Justement, pour suivre le battement d'aile, on va faire le mouvement des actions urgentes. Alors, il faut savoir que l'action urgente, c'est une lettre qu'on envoie à l'ambassade, au pays où des gens sont détenus, et ça peut libérer des gens et sauver des gens. Donc, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Nasrin Sotoudeh. Vous avez dû en entendre parler, elle est condamnée à 38 ans de réclusion et 148 coups de fouet. On s'est déjà mobilisé pour elle. Et il faut continuer avant que vraiment ce soit acté vraiment qu'elle fasse les 38 ans de réclusion juste pour avoir ôté son foulard. Alors, je vous expose la lettre. Nasrin Sotoudeh, éminente avocate spécialiste des droits humains et défenseur des droits des femmes, a été injustement condamnée au total à 38 ans de réclusion et 148 coups de fouet à l'issue de deux procès manifestement iniques. Je m'adresse à vous pour vous prier de la libérer, car il s'agit d'une prisonnière d'opinion. Le 9 février 2019, le bureau chargé de l'application des peines de la prison des Vins à Téhéran, où Nasrin Sotoudeh est incarcérée, l'a informé qu'une décision avait été rendue dans son dernier procès en date. Elle a été autorisée à lire le jugement, qu'il a déclaré coupable de 7 chefs d'accusation et l'a condamnée à 33 ans de réclusion et à 148 coups de fouet. Son procès a eu lieu en son absence le 30 décembre 2018 devant la 28e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Elle n'a pas été autorisée à consulter son avocat. Certains des chefs d'accusation retenus contre elle étaient liés à son opposition aux lois relatives au port obligatoire du hijab, voile. Elle était notamment poursuivie pour avoir incité à la corruption et à la prostitution et commis ouvertement un acte immoral. Quand vous entendez corruption, prostitution, c'est juste le fait d'avoir enlevé le voile. Hein. En apparaissant au public sans porter le hijab. Parmi les activités légitimes que les autorités ont invoquées à titre d'éléments de preuve à son encontre figure notamment son opposition aux lois iraniennes abusives, discriminatoires et dégradantes relatives toujours au port obligatoire du voile, ainsi que le fait qu'elle ait enlevé son voile lors de visites en prison et donner des interviews à des médias sur l'arrestation violente et la détention de femmes qui protestaient contre le port obligatoire du voile. Le 11 mars 2019, Mohamed Moghiché, le juge qui a prononcé le jugement, a semé la confusion en affirmant à des journalistes qu'elle avait été condamnée à 7 ans d'emprisonnement pour deux chefs d'accusation, dont un outrage au guide suprême, pour lequel elle n'était en réalité pas poursuivie. Nasrin Sotoudeh a réagi en appelant les avocats iraniens à porter plainte contre le juge devant le tribunal disciplinaire de la magistrature pour diffusion d'informations mensongères, etc., etc. Donc là, je vais pas tout vous lire, mais c'est un peu la forme des lettres en général. Là, faut l'envoyer au guide suprême. Vous pouvez pas le faire en écrit, apparemment, on peut demander à l'ambassade de lui faire suivre. Vous pouvez nous demander si vous voulez envoyer des actions urgentes à amnesty.evreux@gmail.com, c'est ça ?
C'est ça.
Très bien.
Et pour rebondir, justement, tu vois, des fois, il y en a qui tu vois, les parents dans notre éducation nous disent faut pas mentir. Et ben là, elle a pas menti. Il faut qu'elle prouve qu'elle dit la vérité et qu'un être humain n'est pas obligé de subir une loi d'un pays. Car surtout, quand on parle de Coran, c'est pas imposé dans le Coran. C'est un choix.
voilà, personnelle. Et tu parles de l'importance de la lettre, Mina, parce qu'effectivement, il y a une pétition aussi sur le site. Mais la lettre, c'est effectivement quelque chose qui va arriver en papier là-bas, qui va être ouvert, qui va être visible. C'est encore plus qu'une petite pétition, bon, même si Internet, maintenant, facilite les... Voilà. La lettre, c'est quand même la base d'Amnesty.
Donc l'action passe par là aussi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et voilà, je vais passer... la parole à Claire-Lise, parce que les miquettes sont revenues après la trêve hivernale.
Est-ce que c'est l'hiver ou le printemps, Claire-Lise?
Il y a longtemps que je ne suis pas venue vous parler au micro, là. Donc, effectivement, bon, souvent, je vous parle au niveau local, puisque je suis membre d'Amnesty, mais aussi membre du CFED Asti d'Evreux. Et là, je vais vous parler, effectivement, de la fin de la trêve hivernale, puisque depuis le 1er avril... les personnes locataires qui ne payent pas leur loyer et qui peuvent être expulsées sont expulsables. Mais il y a aussi la fin de la trêve aussi par rapport au 115, c'est-à-dire que des dizaines de personnes ont pu être logées cet hiver parce qu'on considérait qu'il faisait froid. Et puis maintenant, ils n'ont pas de papier, ils sont parfois malades. Ils ont parfois des enfants en bas âge. On voit des familles entières qui sont remises à la rue depuis le 1er avril. Il y avait des hébergements, et c'est pas que parce que des fois, quand on téléphone au 115, ils disent « Non, mais on n'a pas de place, on n'a pas de lit ». Si, les lits, ils y sont encore, mais c'est plus budgétisé. Et donc, la préfecture ferme les vannes et laisse les gens dehors à la rue. Donc, je vais juste vous parler d'une association dont je vous ai déjà parlé, dont Vincent Breuil est le président, qui s'appelle Un Toit Sous la Main. Donc, Vincent, il fait partie aussi d'associations dont RESF, est confronté aux situations de manque d'hébergement d'urgence pour les gens, et notamment les migrants qui sont à la rue, mais pas que. Il a créé une association qui s'appelle Un Toit Sous la Main. Et donc là, il avait envoyé un petit mail justement par rapport à la fin de la trêve hivernale. Donc je vais vous lire ce mail et je vais vous donner l'adresse d'Un Toit Sous la Main si vous voulez les contacter. Donc, fini la trêve hivernale. Alors que suite aux actions menées avec nos associations partenaires, l'hiver s'est déroulé sans que nous ayons eu connaissance de personnes à la rue à Évreux par rapport aux autres années. Les fins de prise en charge se multiplient. Depuis le début du mois d'avril, des familles entières, des jeunes, des malades se retrouvent à la rue. Les autorités administratives prennent soin de ne rejeter que des individus dont elles peuvent légitimer le refus de prise en charge. Ainsi, toute action publique que nous pourrions mener pourrait se révéler catastrophique pour celles et ceux que nous tentons d'aider, car elle pourrait précipiter leurs expulsions. Il y a des mécanismes déshumanisés qui aujourd'hui en France transforme en exilés, des exilés en clandestins. Pour l'heure, la seule solidarité des citoyens pour permettre d'offrir un répit à ceux qui ont besoin de temps pour construire les conditions d'accès aux droits, ce moyen-là, c'est d'offrir en fait un accueil mutualisé. C'est-à-dire que des citoyens acceptent d'accueillir pour une nuit, pour deux nuits, pour trois nuits, pour une semaine, une famille ou un jeune, et se relaye. C'est-à-dire que c'est très lourd d'accueillir une famille, un couple avec deux, trois enfants. Effectivement, quand vous-même, vous êtes déjà dans un appartement ou dans une maison petite, c'est très, très lourd d'accueillir une famille entière. Mais pouvoir accueillir juste sur quelques nuits, pour se dire, au moins, ils ne seront pas à la rue. Et... qui est un relais comme ça entre les personnes, c'est ce que l'association Un Toit Sous la Main recherche. On cherche aussi, en fait, pour tenir sur la durée, il est important qu'il y ait des personnes qui viennent étoffer le dispositif et qui soient solidaires et qui soient partants pour faire partie de cette chaîne de solidarité. Et il faudrait aussi, pour pouvoir loger quand il n'y a pas de famille, des gens dans des caravanes ou dans des yourtes ou dans tout ce que vous pouvez avoir qui mobilhome par exemple qui ne vous servirait pas, et surtout les terrains pour pouvoir accueillir ces caravanes, parce qu'en fait l'année dernière on a eu un souci avec Un Toit Sous la Main. Il y avait une famille qui était dans une caravane, mais la mairie d'Evreux exigeait que la caravane soit déplacée. Et on a eu un mal de chien à arriver à trouver un endroit pour pouvoir, un terrain pour pouvoir mettre cette caravane. Donc, si vous voulez aider l'association Un Toit Sous la Main, vous pouvez les contacter directement par mail, parce que je sais qu'une fois, j'ai parlé comme ça de logement solidaire, et il y a un monsieur qui a appelé Principe Actif le lendemain. Donc, je lui avais relaissé un message, mais c'est plus facile d'appeler directement l'association Un Toit Sous la Main. Donc, l'adresse mail, c'est 1, le chiffre, 1, toit, T-O-I-T, sous la main, S-L-M, donc ça fait 1, toit, S-L-M, @laposte.net. Donc, si vous pouvez prendre contact directement avec l'association, si vous pouvez offrir
un petit peu
d'aide pour l'hébergement. Et puis, quand même, reprendre aussi, parce que le collectif des associations du département de l'Eure a été reçu par monsieur le préfet et ses collègues de la préfecture. Donc, j'y étais pas cette fois-ci, mais Didier y était. Ils ont été reçus par monsieur le préfet. Et il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites lors de cette rencontre. Donc, il y avait effectivement, il y avait 9 associations du département qui demandaient des comptes à la préfecture sur la façon dont sont accueillies les personnes migrantes ou les personnes clandestines qui ont du mal à être régularisées. Donc il y avait l'ANDA au nom des autres de Pont-Audemer, il y avait la CIMAD de Gaillon, il y avait l'ADEME, l'association d'entraide aux migrants de Vernon, il y avait les Restos du Cœur qui depuis depuis que ça existe, hein, depuis qu'on va voir le préfet depuis le mois de septembre, accompagne notre action. Il y avait la Ligue des droits de l'homme, il y avait la Pastorale des migrants, je vais en oublier. Il y avait Amnesty, il y avait Réseau d'éducation sans frontières et Un Toit Sous la Main. Je crois que je suis arrivée à 9.
Elle s'est faite.
Oui, bah voilà. C'est fait d'astider.
Non, mais là, ça y est, je t'écoutais, mais c'est bon, c'est complet.
Donc, toutes ces associations ont été reçues par monsieur le préfet. Et monsieur le préfet dit, enfin, très souvent, il nous dit, oh, mais il n'y a pas de souci. Si vraiment une situation mérite d'être réexaminée, et si par exemple cette personne a une promesse d'embauche en CDI, pas de problème, je reverrai cette situation, on verra pour arranger les choses, je suis prêt à réexaminer le dossier.
Bah, c'est une bonne nouvelle, ça.
Oui, c'est une bonne nouvelle. Seulement depuis, on s'est quand même aperçu que effectivement le préfet a une communication très humaniste. Mais dans les faits, la préfecture, elle est loin d'être aussi humaniste. Et dans le contexte actuel du traitement des titres de séjour par la préfecture, eh ben, ça semble urgent de réagir. Un monsieur, par exemple, qui avait un renouvellement d'un titre de séjour santé, s'est présenté à la préfecture. Au moment de son renouvellement, il y va, il se prend une OQTF. OQTF, obligation de quitter le territoire français. Alors qu'il travaille, il a un contrat de disponibilité, par exemple, avec Contact Service pour faire des travaux à la demande. Eh bien, la rédaction de l'OQTF est signée, je ne vous dirai pas son nom, mais pour un monsieur qui était présent lors de l'audience avec la préfecture, puisque c'est, je pense, le premier responsable sous le préfet. C'est lui qui signe les obligations à quitter le territoire, donc après cette fameuse audience. Et ça en dit long sur le fonctionnement de l'administration préfectorale. Parce que loin des bonnes intentions affichées par le préfet, et ben, prêt à donner des titres de séjour aux étrangers présentant des promesses d'embauche en CDI, et ben, là, il y a une stratégie qui est quand même assez aberrante. C'est-à-dire que des gens qui ont des CDI, qui ont un logement, qui sont parfaitement intégrés, on leur refuse le renouvellement de leur titre de séjour.
Alors que pendant l'entrevue qu'on a eue effectivement avec le préfet, c'était son leitmotiv à monsieur le préfet, effectivement, de dire « Mais vous savez, par rapport au cas qui était cité, mais vous savez, si vous avez des promesses d'embauche, etc., je suis prêt à réouvrir tous les dossiers des gens concernés et à faire preuve de la plus grande compréhension par rapport à ces dossiers. » Et ça, s'il nous l'a pas dit 10 fois pendant la réunion, il nous l'a pas dit une seule fois. Hein. Donc, effectivement, c'était systématiquement sa réponse.
C'est quoi que tu as dit au début de l'émission ?
C'est pas bien de mentir.
Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit là.
Voilà. Et donc, bah oui, on peut envoyer à la préfecture ce même genre de commentaire. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait entre guillemets sourire intérieurement, si on peut dire. Et il a cité le cas d'une personne qui avait travaillé dans la restauration à Bernay, et qui n'était plus en situation de travailler, mais qui pouvait recommencer. Et il a dit, mais vous pouvez effectivement m'envoyer une promesse d'embauche. D'ailleurs, vous, en tant qu'association, vous pouvez très facilement dans ce milieu-là, la restauration, trouver une promesse d'embauche puisqu'ils recherchent du personnel. Ça m'a fait penser en disant, nous, association effectivement d'entraide des droits humains, on va aussi remplacer la NPE peut-être.
Bah déjà, là, on remplace pour beaucoup de choses hein, sur le terrain sur Évreux. Et il serait temps aussi de remettre à l'État le nez dans ses affaires. Et c'était la mission de cette audience. Voilà. Donc, ça fout les miquettes.
Bah oui. Donc, on continuera à faire pression auprès de monsieur le préfet au sein de ce collectif État Généraux de Migration.
Il peut peut-être changer les choses. On peut lui donner les noms.
Thierry, si tu nous écoutes.
Voilà. On va essayer de le mettre sur principe actif.
Bon, on va changer un peu le conducteur de l'émission parce que, bon, on va faire une deuxième pause musicale. Tout de suite.
Ce monde à la dérive, barré comme un bateau ivre, où sont passés les commandants de bord. Et d'abord, qu'on ait voté pour ou contre, c'est la course contre la montre, entre les plus faibles et les plus forts. Plus d'accord. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon île. Au trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. Au secours, les ponts s'écroulent, c'est la panique dans la foule. Chacun se bat pour sauver sa peau, sauf qui peut. Autour des canots de sauvetage, les rescapés du naufrage luttent à mort pour maintenir leur corps hors de l'eau. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon île. Là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. Survive ou qu'on en crève, il faut poursuivre nos rêves jusqu'au bout sans regret ni remords. Et toujours le cœur armé de courage, s'arracher au grand naufrage des humains prisonniers de leur peur, de l'amour. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon au trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. Oh,
Donc c'était Jacques Higelin. C'était Jacques Higelin. On est de retour sur l'antenne de Principe Actif, Amnesty International. C'était Jacques Higelin. On n'a pas oublié que ça fait un an qu'il nous a quitté, Jacques Higelin. Mais il reste toujours très présent dans notre cœur. C'est pas Clarlys qui va me dire le contraire.
Ah ben non, hein.
Et donc, ça tombe bien justement parce que Clarlys avait encore quelque chose à vous dire.
Eh ben, je vais vous parler. J'ai pas le droit de parler trop près du micro.
Tu causes trop au micro.
Je vais vous parler du Rwanda. Donc, 25 ans après le génocide, les politiques de diabolisation sont plus dangereuses que jamais. Donc, il y a 25 ans, la communauté internationale n'est pas intervenue et s'est contentée d'observer, tandis qu'un génocide se déroulait au Rwanda, dévastant un pays et laissant des cicatrices durables. Les voisins se sont dressés contre les voisins pendant 100 jours, dans un bain de sang alimenté par une campagne diabolisant les membres de la minorité Tutsi. Cette campagne s'est appuyée sur des émissions de radio pour propager la haine ethnique et l'incitation au meurtre. Entre le début du génocide, le 7 avril 1994, et la fin des massacres, en juillet de la même année, environ 800 000 personnes ont perdu la vie. Des milliers d'autres ont été torturées, violées et soumises à d'autres formes de violences sexuelles. Les victimes étaient principalement des Tutsis désignés pour être éliminés, mais aussi des Hutus opposés au génocide et aux forces qui l'ont orchestré. Le génocide, lui, couvait depuis longtemps. Si le catalyseur immédiat des massacres fut l'assassinat du président de l'époque, Juvenal Habyarimana, dont l'avion fut abattu au-dessus de Kigali dans la soirée du 6 avril, le génocide couvait depuis longtemps. Depuis des années, les Hutus, tenants de la ligne dure, et les dirigeants Hutus soufflaient sur les braises des tensions ethniques, avivant une stratégie devenue bien trop familière de par le monde. La désignation comme bouc émissaire d'un groupe de la société par un autre groupe. Ils ne se sont pas contentés d'une propagande et de discours populistes, mais ils ont dispensé des entraînements et distribué des armes à leurs partisans, notamment aux miliciens Interahamwe. Oui, bon, bah, je l'ai dit.
Faut dire ça très vite.
C'était juste pour t'aider.
Je l'ai dit. Oh. Depuis des années, les Hutus, tenant de la ligne dure, donc, ils ont soufflé pour que cet embrassement prenne. Et ça a été un déferlement de haine ethnique envers les Tutsis qui ont été massacrés. Malgré l'ampleur des atrocités commises, la communauté internationale n'est pas intervenue. Deux semaines après le début du génocide, face à des preuves accablantes, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la réduction du nombre de soldats de maintien de la paix au Rwanda, au lieu d'intensifier son action pour mettre un terme au massacre. Ce n'est qu'après que le Front patriotique rwandais eut pris le contrôle du pays et que les dirigeants du monde ont fini par retrouver la parole pour proclamer « plus jamais ça ». Et pourtant, trop souvent, en cet anniversaire des plus douloureux, il faut faire le point pour regarder la terrible réalité en face. Le monde n'a pas tiré les leçons du génocide au Rwanda en 1994. Au cours des 25 années qui ont suivi ce génocide, le monde a été témoin de crimes innombrables, relevant du droit international, ainsi que de violations des droits humains qui découlent bien souvent des mêmes politiques de diabolisation et de stratégies d'exclusion. Lorsque les institutions nationales ne respectent pas l'état de droit et les droits humains, nous supposons que les organismes internationaux vont intervenir. Mais ils ne sont en général pas assez puissants pour mettre un terme aux atrocités. En août 2017, l'armée birmane a lancé une campagne de nettoyage ethnique dans l'état d'Arakan contre le groupe ethnique des Rohingyas, majoritairement musulmans, victimes depuis des décennies de discrimination et de persécution cautionnées par l'État. Tandis que des villages étaient réduits en cendres, des femmes et des enfants violés et des milliers de personnes tuées, plus de 720 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin. Le mois dernier, la terrible attaque contre deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, nous a rappelé le danger mortel que représentent les politiques de diabolisation qui se déchaînent à leur guise. Cependant, nous pouvons tirer des enseignements importants de cette tragédie. La réponse de la Nouvelle-Zélande au niveau politique et citoyen nous rappelle également que se mobiliser collectivement et refuser de se laisser intimider par une idéologie de la haine est une grande force de changement. En ce bien triste anniversaire, donc les 25 ans après le Rwanda, notre solidarité aux victimes, à leurs familles et aux survivants du génocide, toute notre solidarité va bien sûr à toutes ces personnes. Et si nous voulons rendre hommage à la mémoire des victimes du génocide au Rwanda, nous devons amener nos dirigeants à rendre des comptes, à veiller à ce qu'ils tirent des leçons de l'incapacité à stopper ce génocide, à la fois dans leur discours politique au niveau national, mais aussi dans leurs engagements internationaux. Exigeons la fin des politiques clivantes du « nous contre eux ». Plus jamais ça doit enfin prendre tout son sens. Alors, plus jamais ça, ça a été dit aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Et comme je le dis souvent, en ce moment, il y a un petit parfum là, avec les... Je vais rappeler encore, mais quand même tous les pays qui se ferment face aux migrants, avec les fils barbelés que érige la Hongrie.
La Pologne.
Voilà.
L'Autriche, elle est...
Oh ben la France
Et l'Europe en elle-même, parce que par rapport à ce que disait Didier, par rapport à la Méditerranée, par rapport à Frontex... Et...
Voilà, quand on dit plus jamais ça, c'est plus jamais ça. Voilà.
Et aussi par rapport aux fake news aussi, énormément, par rapport aux réseaux sociaux, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est aussi des discours complètement totalitaires qui, en semble-t-il, nourrit la personne qui a fait le massacre en Nouvelle-Zélande. Donc ça aussi, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, c'est vraiment des choses à surveiller et à savoir dénoncer et dire non, c'est pas vrai. La vérité.
Faut faire attention à ce qu'on lit, effectivement, et à ce qu'on reçoit, ça c'est sûr. C'est une évidence, on en a déjà parlé beaucoup pendant les émissions, on en reparlera aussi. Et justement, on parlait de réseaux sociaux et d'être vigilant, mais je crois que tu vas nous parler de devoir de vigilance, justement.
Moi, je suis Madame Loi aujourd'hui, c'est étonnant, mais c'est comme ça, parce que c'est un article qui m'a interpellée de notre chronique d'Amnesty, le petit journal d'Amnesty, à laquelle vous pouvez vous abonner.
C'est un très bon moment.
Très, très intéressant, et comme ça, vous serez en avant-première de quoi on va vous parler. Donc là, c'est une loi dont on a déjà parlé à la radio il y a déjà un petit moment. C'est la loi relative au devoir de vigilance des entreprises. Bon, quand on a dit ça, c'est pas forcément très clair. Mais c'est une loi qui permet d'identifier des risques liés à leurs activités concernant les droits humains, les atteintes à la santé, à la sécurité des personnes, à la destruction de l'environnement. Donc ça, c'est important parce que cette loi demande aux entreprises de faire un plan pour prendre en compte les agissements de ses filiales, de ses fournisseurs, de ses sous-traitants. Et ça constitue une avancée majeure. Si une entreprise ne réalise pas un plan de vigilance sérieux ou qu'elle ne le met pas en œuvre, elle peut être mise en demeure par toute personne morale ou privée ayant intérêt à agir. Et bien ça veut dire tout citoyen. Donc ça, c'est quand même important aussi.
C'est nous.
Voilà, c'est nous. Et alors, si cette entreprise n'a pas réagi au bout de 3 mois, le juge est susceptible d'être saisi et de l'y contraindre, y compris sous astreinte. La responsabilité civile est alors engagée en cas de dommage. Grâce à cette loi, finit l'impunité. Alors, un exemple que donne cet article, c'est un fabricant de smartphones pourrait potentiellement être tenu responsable des dégâts engendrés par l'extraction du coltan. Vous savez, ce petit métaux rare qu'il y a dans tous nos téléphones. Ce coltan qui est extrait en République démocratique du Congo, où il y a là-bas le travail des enfants, des financements des groupes armés. Même si le fabricant de smartphones n'exploite pas directement les mines. Alors maintenant, ça fait 2 ans que cette loi a été adoptée. Donc Amnesty dresse le bilan. C'est Sabine Gagné, chargée du plaidoyer des entreprises et des droits humains pour Amnesty, qui fait un premier, qui nous donne des informations. Alors, les entreprises qui sont concernées par cette loi, ce sont celles qui emploient plus de 5000 personnes en France ou plus de 10 000 à l'étranger. Alors, les plans de vigilance des entreprises qu'elles sont obligées de rédiger sont souvent lacunaires. C'est ce qu'elles se rencontrent actuellement. À l'inverse, il y a des entreprises qui font de très beaux plans de vigilance, mais sans qu'on sache si elles agissent vraiment sur le terrain, dit-elle. Maintenant que la France a fait entrer cette obligation dans la loi, c'est à la société civile de s'en emparer. Les ONG, les syndicats, mais aussi les communautés locales victimes des dommages causés par une entreprise peuvent potentiellement agir en justice, précise-t-elle. Alors un exemple, en octobre 2018, une première procédure a été initiée par un collectif d'ONG et de collectivités locales contre Total, qui n'avait pas daigné mentionner le réchauffement climatique dans son plan de vigilance actuel. On espère que cela fera boule de neige. Et la photo que j'ai pour illustrer cet article, c'est la pollution aux hydrocarbures dans l'état du delta du Niger. Alors, quelque chose dont on vous a beaucoup parlé. Donc, effectivement, peut-être une arme plus positive en France. Voilà, point d'espoir.
Juste un petit point d'information, on en avait parlé à la dernière émission, mais comme tu parles de l'état du Niger, pour la première fois, les femmes qui représentent une partie de la population de l'état du Niger ont pu déposer en Grande-Bretagne contre Shell. Donc effectivement, et leurs témoignages ont été recueillis et l'instruction est en cours pour faire payer Shell les réparations qu'ils doivent à ces populations qui ont été dévastées à cause des hydrocarbures. Donc effectivement, on peut faire bouger les choses. On arrive au terme de l'émission, là il nous reste une minute et il y a notre ami du laboratoire qui vient d'arriver dans le studio et qui on va laisser la place avec beaucoup de plaisir. On vous rappelle juste que donc
notre prochaine émission
c'est le mardi 30 avril 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif et juste demain c'est pas nous directement mais comme on est très 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 proche ça nous fait plaisir de le redire comme vous disiez Mina tout à l'heure une émission de Principe Actif part en live demain en direct et en public au Cube et c'est consacré justement au réchauffement climatique et à la défense à la lutte pour l'écologie et donc les droits humains qui vont
écologie,
avec
écologie, droits humains, c'est un même combat oui.
Voilà, on rend l'antenne, on laisse l'antenne au laboratoire et on vous dit rendez-vous le 30.
Bonsoir.
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 Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.